cœur par rapport à la recherche de la vérité. Alors, hier, je vous ai donné cette vision aérienne de la métaphysique qui aboutit au sommet, à la source. Et à partir de là, cette ouverture du cœur à Dieu. La véritable ouverture du cœur, c'est l'adoration. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est celle-là. En adorant, on reconnaît qu'on est une pauvre petite créature, fragile, qui est infiniment loin de Dieu, et pourtant toute proche. Dieu est tout proche et la créature est loin. C'est toujours ce qu'il faut se rappeler. Dieu est tout proche comme créateur et nous sommes loin. Très loin par l'intelligence et très proche par l'adoration. Et l'adoration, c'est l'acte d'amour fondamental. C'est pour ça que je dis que c'est l'ouverture du cœur. On ouvre d'abord son cœur à Dieu avant de les ouvrir aux autres. Il y a des secrets qui restent toujours des secrets entre Dieu et nous. Et fondamentalement, l'adoration nous lie à Dieu. Dans un secret, puisqu'il y a un acte propre de Dieu qui crée notre âme. Et personne ne pénètre dans ce secret notre âme avec Dieu. Personne. Et vous respectez ce secret. Voyez-vous pas que l'ouverture du cœur tombe dans un point de vue psychologique et qu'on croit qu'alors on ouvre son cœur aux créatures. Secret qui demeure et la grâce chrétienne ne supprime pas le point de vue de la création. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Parce que le point de vue psychologique risque toujours de l'emporter sur le point de vue divin. Entre Dieu et nous, il n'y a pas de rapport psychologique. C'est pour ça que je disais la nudité. On est seul avec Dieu. Et on doit garder ce privilège d'être seul avec Dieu. On est seul qu'avec Dieu. Et il faut radicalement découvrir cela dans l'adoration. Dans cet amour fondamental, dans cet amour radical qui nous unit à Dieu et qui fait que on est tout entier donné, tout entier livré, et Dieu fait de nous ce qu'il veut. L'adoration, c'est lui remettre. C'est la soir, on a le temps, on y reviendra. Il faut des adorateurs en esprit et en vérité. Et donc l'adoration nous saisit au plus intime de notre cœur et nous met dans la vérité et nous met dans la plus grande lucidité que nous pouvons avoir de nous-mêmes, puisque c'est la lumière de la sagesse de Dieu qui est présente et que nous rejoignons dans notre intelligence, dans la perspicacité de notre intelligence, d'une intelligence affective, aimante, qui rejoint la sagesse de Dieu. Nous adorons le Dieu créateur. Nous l'aimons et nous découvrons le Père. L'adoration nous fait découvrir la paternité de Dieu sur nous. Dieu créateur ne peut pas abandonner son œuvre et ne peut pas l'annihiler. Voilà ce qui enlève toute angoisse métaphysique. L'angoisse métaphysique est le fruit d'une laïcisation. Pas l'oublier, ça. Il ne peut pas y avoir d'angoisse métaphysique si on est au niveau de l'éthique religieuse. C'est impossible. Puisqu'on sait que le Dieu créateur est Père. Et donc, il ne peut pas, dans sa sagesse, annihiler son œuvre de créateur et de père. Saint Thomas, en théologien, se pose la question de savoir si Dieu peut annihiler les créatures spirituelles qu'il a créées. Je dis ça, c'est parce que, voyez, dans Sartre, vous trouvez toujours l'annihilation. C'est le fruit d'une philosophie athée. C'est le poids du néant, imaginativement, vous comprenez bien. L'angoisse est imaginative, c'est réel, mais au niveau de l'imagination. C'est l'imagination qui veut remplacer notre substance, l'angoisse. C'est l'imagination, c'est le cancer imaginatif qui prend tout. Et c'est le mal de notre monde d'aujourd'hui, fruit de toutes les idéologies athées. Quand quelqu'un est angoissé, il ne sait plus ce qu'il fait. Et c'est pour ça que ça peut conduire à n'importe quoi. Et c'est vraiment ce cancer de notre monde d'aujourd'hui, au niveau imaginatif. Vous voyez, c'est l'imaginaire qui a tout pris. C'est ça le cancer. Quand une partie veut être autonome par rapport au tout, c'est l'aspect du schisme. On se sépare du tout. On ne veut plus servir. Chaque fois qu'il y a une cellule cancéreuse non serviable, elle dit ça et elle proclame ça. Et elle veut tout prendre et elle montre qu'elle prend tout. Ah, tu verras. Je vais tout absorber. Si vous écoutez bien. Et voyez, c'est lié à cet aspect d'annihilation. Les philosophes n'ont pas parlé d'annihilation, vous savez, avant ce siècle-ci. C'est le siècle de l'annihilation philosophique. Il est marqué au fer rouge. Fruit de des idéologies athées. Alors il faut qu'on saisisse ça au point de vue de l'éthique religieuse. L'adoration nous empêche de tomber dans l'angoisse. Saint Thomas pose la question, le Dieu créateur peut-il annihiler ce qu'il a fait, puisqu'il a créé à partir de rien? Donc tout dépend de lui. Dans sa toute-puissance, Dieu peut tout annihiler. Et dans sa sagesse, Dieu s'est engagé comme Père. J'allais presque dire, il l'a juré qu'il n'abandonnera pas son œuvre. Et son petit Benjamin, son petit dernier, Dieu s'est lié dans une alliance.
À substance.
Il n'y a que Dieu qui peut être présent comme ça. Parce qu'il atteint mon être. Les autres n'atteignent pas directement mon être. Ils atteignent mes qualités. Quand on enseigne, on n'atteint pas directement l'être. Comme disait un vieux professeur, je peux vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. Et c'est vrai. Si je pouvais rendre plus intelligent, ensemble, on cherche une présence dans la vérité et dans la recherche de la vérité. C'est très beau, c'est très noble, c'est très grand. Mais je n'atteins pas l'être ni l'intelligence directement. Je l'atteins par la parole. Et par la parole, j'exprime quelque chose. Donc c'est à travers la relation du discours. Tandis qu'au contraire, Dieu agit directement à l'intérieur. C'est pour ça que c'est une présence intime, sans aucun intermédiaire, de substance à substance. Puisque, en Dieu, l'action du Dieu créateur est substantielle. C'est très important de saisir le mystère. C'est un mystère philosophique. Un problème, parce que ça m'enveloppe complètement, la présence d'immensité de Dieu. Et c'est cet ultime regard de l'homme intelligent, de l'homme qui réfléchit, pour comprendre cette présence d'immensité. Dieu me voit dans tout mon être. Les seuls points négatifs, c'est le péché. C'est l'orgueil. Parce que le péché n'est parfaitement péché que dans l'orgueil. Là, ça, c'est un point négatif où je me détourne de Dieu. Alors, il y a un obstacle. Je crée un obstacle par rapport à la lumière de Dieu sur moi. Je crée l'ombre. Je crée la nuit. C'est la seule chose que je peux faire. Et ceci se fait dans l'orgueil. C'est l'orgueil qui est à la racine de tous les refus. Tout le temps. Cette présence d'immensité qui fait que je suis enveloppé, porté par la main de Dieu créateur qui a façonné mon corps et qui a créé mon âme. Cette présence d'immensité, je la découvre et j'en vis par le mystère de l'adoration. C'est dans l'adoration que je peux vivre de cette présence d'immensité de Dieu qui m'enveloppe. Et j'en ai, ça me donne une certitude, une confiance absolue que Dieu jamais ne m'abandonnera. Lui est fidèle à son amour. Et que l'amour de Dieu sur moi, qui a créé mon âme, est toujours actuel. Et que je cherche à rejoindre de plus en plus cet amour. C'est là où je découvre ce qu'est la providence. Comment Dieu me garde dans son gouvernement sur moi. Il me garde et il développe en moi ce qu'il y a de meilleur en moi. Parce qu'il m'aime comme un père et me gouverne comme un père. Non seulement comme un père, mais comme une mère. Puisque c'est une présence d'enveloppement, elle est maternelle. Dieu est comme une mère qui me porte de l'intérieur et qui me conduit vers mon bien. C'est pour ça que l'adoration qui me met en contact direct avec cet acte créateur de Dieu, l'adoration va se prolonger dans cette attitude d'abandon, se remettre entre les mains de Dieu. Et je ne m'inquiète ça l'attitude d'abandon. Vous voyez, je cerne très profondément dans mes activités ce que je suis capable de faire et ce qui ne dépend pas de moi. Des quantités de choses qui ne dépendent pas de moi. Tous les événements qui arrivent, tout ce qui vient de l'autre, tout ce que l'autre peut faire sur moi, tout ça ne dépend pas de moi. Alors je le remets entre les mains de Dieu et je suis tout entier présent à ma responsabilité, ce que je suis capable de faire, ce que je dois faire pour rester uni à la volonté paternelle de Dieu sur moi, pour découvrir les intentions profondes de Dieu sur moi. Toute mon attention est polarisée là-dessus. Et c'est cela qui me met dans une totale confiance et dans l'abandon. Mais c'est une attitude religieuse, abandon. C'est celui qui sait qu'il est porté par les mains de Dieu et par la toute-puissance de Dieu. Que Dieu sait mieux que moi mon bien, que Dieu sait mieux que moi la manière dont je dois me conduire. Alors, je ne veux plus réaliser mon projet de vie. Je ne veux qu'une seule chose, c'est me remettre dans les mains de Dieu. C'est très grand l'abandon. C'est le fruit direct de l'adoration. Et c'est cela qui me met dans la paix et la joie. Une âme abandonnée est toujours joyeuse. Et le manque de joie est toujours un manque d'abandon. Et le manque de paix, l'inquiétude, l'agitation provient d'un manque d'abandon. Et cela, on est responsable de cela aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, nous pouvons adorer quand nous voulons. Et quand nous multiplions les actes d'adoration, progressivement, nous entrons dans cette paix intérieure et dans cet abandon divin. Voyez, l'éthique religieuse stoïcienne d'Épictète est très, très portée là-dessus. Et ça, c'est très beau. Et c'est très grand. C'est quelque chose de fondamental dans notre vie humaine. Surtout, vous voyez, quand on vit un monde très agité, comme le nôtre. Surtout quand la laïcité ne peut exister que dans la tempête. La laïcité n'existe que dans la tempête, pour empêcher les gens de réfléchir. C'est la grande tactique, ça, du démon. Je ne peux pas appeler démon, point de vue éthique religieuse. Je dirais, c'est la grande tactique de ceux qui veulent me mettre dans une attitude d'orphelin. Oublier le Père. Comment on oublie le Père? On oublie le Père par l'agitation. On oublie la mère par l'agitation. La tempête. Tout change. Il faut que tout change. Le pantareil d'Héraclite, il faut que tout change. Et quand on fait que tout change, on n'a plus aucun sens d'un patrimoine, d'une tradition, de ce lien avec Dieu qui me garde. Alors il n'y a plus aucun abandon. Et on devient des êtres énervés. Et énervant. On vient des êtres agités qui n'ont plus aucune capacité de silence, aucune capacité d'intériorité. Ils sont ballottés de droite et de gauche. C'est très important de comprendre ce que c'est dans l'éthique religieuse ce qu'est l'abandon. Et on doit tous chercher à entrer dans cet abandon divin. Voyez, faisons attention, l'abandon divin n'est pas du tout l'abandon religieux, n'est pas du tout l'abandon psychologique. L'abandon psychologique, vous savez bien ce que c'est. On baisse les bras. Ah, si c'est ça. Ça y est. Va comme je te pousse. On est capable d'être ramassé dans la cuillère et on prend la forme de la cuillère. On n'a plus de vertèbres. On n'a plus aucune manière de se tenir debout. Alors on est ballotté, droite et gauche. C'est ça l'abandon psychologique. L'abandon psychologique, je crois, est le fruit de la laïcité. C'est terrible, ça. Ce sont des êtres sans vertèbres. On ne sait plus quoi faire d'eux. On leur demande de travailler, ça pue. Parce qu'ils n'ont plus aucune autonomie. Ils sont totalement relatifs. L'abandon religieux, c'est se remettre à la volonté du Père sur nous. Et donc l'abandon religieux implique une détermination fondamentale à notre vie humaine. On ne veut plus qu'une seule chose, c'est l'accomplir la volonté du Père. Parce qu'on sait que c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose éternelle. Le reste, ça passe. Le reste change. Alors c'est secondaire. On le fait avec une application parce qu'on doit le faire. On doit le pourrer la terre. Mais c'est pas ça qui nous finalise. Non. On doit faire la cuisine. Mais c'est pas ça qui nous finalise. On doit travailler. Mais ce n'est pas ça qui nous finalise. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical. La remise totale de tout nous-mêmes entre les mains du Père. Je crois que c'est les deux points essentiels d'une éthique religieuse. De l'homme religieux, il adore et il se remet entre les mains de son Père. Parce qu'il sait que son Père qui l'a créé, qui a créé son âme, ne peut pas l'abandonner. Et que ce premier amour est toujours actuel. Et que ce premier amour, je ne l'ai pas encore saisi pleinement. Il est bien plus riche que ce que je reconnais. Il y a un abîme, puisqu'il est substantiel, cet acte d'amour. Troisième point. Dans cette attitude de l'homme religieux, la soif de contempler notre Père. Et c'est là où l'éthique religieuse stoïcienne a un très grand manque. Et l'éthique religieuse musulmane également. Parce que je crois que l'islam, c'est une grande éthique religieuse, comme le stoïcisme. Mais s'il manque quelque chose, c'est cette soif de contempler. Alors que vous trouvez dans Aristote et dans Platon, tous les deux, où ils ont une éthique religieuse, cette soif de contempler. Cette contemplation. Et on comprend très bien. Si je sais que Dieu est la source de tout mon être, de toute mon intelligence, de tout l'amour que j'ai en moi, ma capacité d'aimer, je voudrais le connaître et le contempler. Pour l'aimer plus, pour que mon adoration soit plus lucide, plus profonde. Je voudrais contempler sa simplicité dans son amour, la pureté de son amour. Il est fidèle. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Et c'est vrai, la fidélité de Dieu, c'est ahurissant, c'est fou. Parce que ce premier amour est toujours actuel. C'est ça la fidélité. c'est quand l'amour ne se ternit pas. C'est quand l'amour ne s'use pas. C'est quand l'amour demeure toujours amour. Un amour qui s'use permet les dérapages. D'où les divorces. C'est parce que l'amour s'use. Parce qu'on ne maintient pas un amour toujours actuel. Alors, tentation, on s'en va à droite, à gauche. Dieu est fidèle. Contemplez la pureté de l'amour de Dieu. Contemplez la perfection de Dieu, de notre Père, Créateur. Contemplez sa bonté, son amour. Il est bon. Je crois qu'il faut tout le temps revenir sur cette contemplation qui nous montre qu'il y a entre Dieu et notre esprit, notre âme spirituelle, un lien. Dieu est lumière, Dieu est amour. Dieu se contemple et s'aime, et c'est en se contemplant et en s'aimant qu'il est mon Père, mon Créateur. Et il m'a donné la capacité de contempler, de rechercher la vérité. Alors je découvre à ce moment-là que cette recherche de la vérité, quand elle aboutit à ce terme, me permet d'être en connaturalité avec Dieu. Parce qu'en recherchant la vérité, je recherche la lumière. Et en recherchant la lumière, je recherche Dieu. Et je sais que Dieu est amour. Et en cherchant à aimer, je m'approche de lui. Un amour limpide, vrai. Un amour qui n'est pas un amour replié sur lui-même, mais qui est toujours un amour extatique, qui permet de s'ouvrir totalement à celui qu'on aime. Je cherche éperdument cette contemplation de Dieu qui se fait dans l'obscurité, c'est sûr, mais qui se fait à partir des touches de Dieu sur moi, qui se fait à partir de ces dons de Dieu sur moi. Je découvre de plus en plus dans mon âme cette soif de lumière, cette soif de vérité. Et je vois que Dieu est présent dans cette soif de vérité. Je découvre de plus en plus en moi cette soif d'amour spirituel. Et Dieu est présent dans cet amour spirituel. Et là, voyez, je retrouve ces choses très belles dans les traditions judéo-chrétiennes. Dieu n'est pas dans la tempête. C'est pour ça que Jésus dort quand il fait la tempête. Avec un petit oreiller. Dieu n'est pas dans la tempête. Dieu n'est pas dans le tumulte. Dieu n'est pas dans le drame. Dieu est dans la paix, Dieu est dans la lumière, Dieu est dans l'amour. Et c'est pour ça que j'ai horreur, en tant qu'âme religieuse, de tout tumulte, de tout drame, de toute lutte. On ne peut plus supporter la guerre, on ne peut plus supporter la haine, on ne peut plus supporter la jalousie, parce que tout ça n'est pas Dieu. Et Dieu est dans la lumière, et Dieu est dans l'amour. Il y a cette espèce de limpidité, vous voyez, de Dieu qui se reflète dans l'âme. Et ceci, c'est, j'allais dire, c'est la grandeur de l'homme qui est capable de découvrir tout cela. En luttant contre son imagination. Et en comprenant cette présence. Alors, vous voyez, la présence de Dieu sur moi prend des modalités différentes. Une modalité de lumière, une modalité d'amour, une modalité de miséricorde, une modalité de perfection, de stabilité intérieure, au-delà de tout le tumulte. Il doit y avoir cette soif de contemplation, et dans cette soif de contemplation, je découvre que Dieu m'attire. Cette attraction de Dieu. Mais qu'entre Dieu et moi, au point de vue purement naturel, il n'y a pas une véritable amitié. Dieu transcende. C'est vrai. Je reviens toujours à l'adoration. En reconnaissant ma petitesse, ma pauvreté. Et si je suis chrétien, je vois que c'est l'apport propre du Christ de réaliser entre mon cœur et Dieu et le Père une véritable amitié. Mais qu'au point de vue purement naturel, donc au point de vue de l'éthique religieuse, il ne peut pas y avoir d'amitié réelle. Je peux en avoir la nostalgie. Ce serait si beau d'avoir une amitié avec celui qui est mon père, avec celui qui est fidèle. Ce serait si grand. Je m'aperçois que je ne peux pas avoir cette amitié. Et donc ma contemplation reste toujours un état de recherche. Je peux m'approcher de plus en plus de Dieu, mais je n'ai pas de repos propre en Dieu. Mon repos est dans l'adoration. C'est là où il y a la stabilité. Mais c'est une stabilité très imparfaite, fondamentale, pas ultime. Et je m'aperçois que ma liberté me joue des tours terribles. L'éthique religieuse découvre ce que c'est que l'orgueil, le péché. Ce désir de me séparer de celui qui est mon père. Ces infiltrations, vous voyez, de tuer le père, ces infiltrations d'opposition au père parce qu'il est l'autorité. Je découvre en éthique religieuse qu'il y a en moi une force inconnue de révolte perpétuelle, d'anarchie, que très facilement je prône l'autonomie au-dessus de tout. Je peux, en moi, je découvre ces tendances d'orgueil. Et je découvre aussi ces tendances à l'égard de la concupiscence sensible, charnelle. Je découvre en moi ces tendances de grosse vanité, de bêtise, qui constamment alimentent la jalousie. Parce que je veux être toujours le plus aimé. Je veux toujours dominer, être le plus intelligent. Je veux tout le temps me satisfaire immédiatement de jouissance. Je découvre ça en moi, dans une éthique religieuse, dans la lumière d'adoration. Je vois que c'est si difficile pour moi de rester celui qui adore le Père. Et que j'ai beaucoup de peine de considérer que mon voisin, il a le même Père que moi. Radicalement. J'ai beaucoup de peine d'accepter ce qui est dit dans les traditions religieuses, que Dieu fait luire son soleil sur les bons et les méchants. j'étais à la place de Dieu, je ferais pas ça du tout. Je ferais luire mon soleil sur tous ceux qui m'adorent. Et sur tous les autres, tremblement de terre, pour manifester ma présence. Voyez, je projette sur Dieu ce que je considère si facilement comme le premier attribut de Dieu, la toute-puissance. Et je discerne là le caractère d'une véritable éthique religieuse et le caractère d'une non-véritable éthique religieuse. Est-ce que je mets comme premier caractère de mon Père, la bonté, l'amour, la miséricorde? Ou est-ce que je mets au contraire comme premier caractère du Dieu créateur, la toute-puissance? Toutes les éthiques religieuses qui mettent la toute-puissance comme le premier caractère, personne d'entre nous sont semblables, sont identiques. Nous avons tous quelque chose d'unique dans notre relation vis-à-vis de Dieu et dans notre relation vis-à-vis des autres hommes. Heureusement, du reste. Vous savez, cette chose très curieuse, hein, quand il y a une pile de manteaux, de chapes, exactement les mêmes, on arrive à distinguer la sienne. Je sais pas comment, hein, on touche. On se trompe de temps en temps quand on a un toucher d'hippopotame, mais si on a un toucher humain, on arrive à discerner ce que l'hippopotame n'arriverait pas à discerner. Il grincerait tout, tandis que l'homme distingue. Et alors, il y a cette distinction de notre âme. Dieu ne se trompe jamais. Quand vous priez, Dieu ne se trompe jamais. Dieu sait que c'est vous. C'est heureusement. Pas besoin de... Pas besoin d'appuyer sur une sonnette et dire c'est moi qui prie aujourd'hui, hein, écoute-moi. Non, pas du tout, toujours là. Et il ne se trompe jamais. Il voit tout de suite ce qu'il y a d'unique en vous. D'unique. Et il vous aime comme l'unique. Comme l'unique. Ne vous demandez pas si Dieu vous aime plus que le voisin. Non, non, il vous aime d'une manière unique. Il n'aime pas beaucoup qu'on fasse ça. Parce que vous projetez, là, votre imagination. Vous découvrez ce qu'il y a d'unique. L'adoration nous permet de découvrir que chaque homme est unique pour Dieu. Et en découvrant que chaque homme est unique pour Dieu, et chaque femme est unique pour Dieu, l'homme, on est unique. C'est pour ça que quand on compare, est-ce que l'homme est plus parfait que la femme? Mais attention, attention, c'est pas ça du tout que Dieu a fait. Il y a un regard unique de Dieu sur l'homme, un regard unique de Dieu sur la femme. Alors il y a un assemblage de qualités et de limites qui sont différents. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre qu'on est unique. Et par là, on découvre l'humilité. Et par là, on enlève à la dynamite tout ce qui est obstacle à un véritable amour pour l'autre. Il y a un véritable respect pour l'autre. Quand on regarde l'autre comme chef-d'œuvre de Dieu, petite créature de Dieu, quand on regarde l'autre comme aimé de notre Père, alors on essaie de l'aimer comme notre Père l'aime. Parce qu'on sait que si on ne l'aime pas comme notre Père l'aime, on blesse notre Père. Et on le blesse à la prunelle de son œil. Alors à partir de ce moment, on essaie, dans un regard d'humilité, de laisser passer devant chacun de ceux qui sont proches de nous. Puisque c'est ça le geste d'humilité. C'est de laisser l'autre passer devant. Vous voyez, c'est juste l'inverse de l'orgueil. Comme l'orgueil psychologique, là on connaît très bien. La psychologie de l'humilité, on la connaît très mal. La psychologie de l'orgueilleux, on le connaît parfaitement. Et la psychologie du démon, c'est la psychologie de l'orgueilleux numéro 1. Nous, il y a un petit mélange toujours d'humilité, d'orgueil. Et la vraie psychologie, la véritable humilité en nous échappe à la psychologie. C'est relié directement à l'amour et à l'adoration. Et ça nous met en contact avec le regard de Dieu sur celui qui est nous n'arriverons jamais à atteindre pleinement. Nous sommes sur une piste. Découvrons-la. Et nous savons qu'il y a en lui quelque chose de fondamental qui est unique. Dieu ne réalise jamais deux êtres absolument semblables. Oui, même au plan biologique, on arrive à dépister ça. Ce qui est extraordinaire, comme une petite marque de cet amour de Dieu. On sait que biologiquement, il n'y a pas deux êtres identiques. C'est impossible. C'est la petite marque. Mais au point de vue de la sagesse, nous le découvrons à partir de l'adoration. Puisque Dieu nous aime d'un amour unique, il aime notre voisin d'un amour unique. Et parce que Dieu l'aime d'un amour unique, je respecte cet amour de Dieu sur lui. Et je l'ai fait et je le laisse passer devant moi. Réellement. Et donc je ne le juge pas. Même si extérieurement il m'agace prodigieusement, je ne le juge pas. Parce que Dieu peut très bien cacher son trésor de mille façons. De mille façons. Et ce que moi je traite de bêtise du côté de Dieu, ça peut être une ruse divine, une stratégie divine de cacher son trésor. C'est très très grand de découvrir point de vue éthique, religieuse, ce nouveau regard que donne l'adoration, que donne l'abandon, ce nouveau regard sur ceux qui sont proches de nous. C'est pas la charité fraternelle, hein, non, non. C'est le respect vis-à-vis de l'autre. C'est son droit unique à être une créature unique. Oui, c'est le droit de la personne, ça. Et c'est au fond l'autonomie fondamentale qui est en nous. Puisque nous sommes créés par Dieu, notre âme est créée par Dieu, nous sommes libres, fondamentales à l'égard de tous les autres. Nous demandons que les autres nous respectent dans ce qu'il y a de plus fondamental en nous. C'est quand même quelque chose de très très grand, ça. Ça montre, vous voyez, comment l'humilité conduit à une attitude de justice, de respect de l'autre, qui va beaucoup plus loin. Il y aura toujours dans l'autre quelque chose d'irréductible à mon regard, à mon jugement. C'est pour ça que je ne peux pas le juger. Je peux juger ses actions extérieures. Je peux juger que quelqu'un est assommant en vie commune. Que dès qu'il est là, c'est la brouille, c'est le drame, il n'y a plus moyen de rien faire. Ça, je peux le juger, hein. Il faut même le juger. Que dès que quelqu'un est là à la cuisine, tout valse à droite et à gauche, et le repas est toujours en retard, je peux juger ça. Assommant en vie commune. Ah, quand il n'est pas là, ah, comme c'est calme. Ça, c'est très bien. Je ne juge pas la personne. Je juge ses activités. Et si je suis responsable de la vie commune, je dois écarter ces fauteurs d'agitation. Je vous respecte infiniment, mais vraiment, vraiment, je vous en supplie, écartez-vous. Parce que dès que vous êtes là, ça ne va plus du tout. Or, j'ai la responsabilité des autres. Et j'ai responsabilité de leur sommeil, quand même. Si toute la nuit, vous faites somnambule et vous prenez une trompette, un corps de chasse, ça va plus du tout. Et il y en a qui font ça, psychologiquement parlant. Alors on les écarte parce qu'on est responsable au nom de la justice. Mais voyez, profondément, je ne le juge pas, je le respecterai jusqu'au bout. Et je dois la respecter jusqu'au bout. Et face à Dieu, il est peut-être très aimé de Dieu. Dans les traditions religieuses, je vois qu'il y a des Sansons qui existeraient aujourd'hui, on le mettrait dans un hôpital psychiatrique. Et Dieu ne l'a pas mis dans un hôpital psychiatrique. Parce que Dieu n'a pas les clés de l'hôpital psychiatrique. Il les a pas. C'est en dehors de lui. C'est curieux, ça. Un Sanson. C'est pas existé. Un éthique religieuse, selon les traditions religieuses. Et je comprends très bien. Si on va jusqu'au bout de l'humilité, on voit ça. Ce respect de Dieu. Cet amour de Dieu pour chacun. Donc l'humilité et le respect vis-à-vis des autres qui changent complètement les rapports de justice en profondeur, qui laissent la justice au niveau communautaire. C'est vrai. Une communauté religieuse peut exister. Alors on touche ici tout de suite au problème, voyez. Qu'est-ce qui caractérise une communauté religieuse comme communauté religieuse? Il y a l'éthique personnelle et l'éthique communautaire, puisque l'homme est un animal social. Alors qu'est-ce qui caractérise l'éthique? Qu'est-ce qui caractérise la communauté religieuse comme communauté religieuse? Ce n'est pas la famille. La famille caractérise la communauté humaine comme communauté humaine. Dans son fondement de communauté humaine. Tandis, qu'est-ce qui caractérise la communauté religieuse comme communauté religieuse? C'est la prière liturgique. L'adoration, c'est ma relation individuelle et personnelle à l'égard de Dieu. Alors que, humainement parlant, par le corps, par la sensibilité, l'homme demande de vivre en communauté. Et si l'homme découvre son lien avec le Créateur et avec le Père, il se pose tout de suite la question. Ne doit-on pas créer des communautés religieuses? Il a toujours existé ça dans toute communauté. Il y avait une éthique religieuse. Il s'est fondé des communautés religieuses. Les pythagoriciens, dans notre culture occidentale, les bouddhistes, les bonzes. Je crois que partout, on retrouve ça. Les communautés tibétaines, partout, on retrouve ça. C'est impressionnant, du reste, de voir comment l'attitude religieuse, l'homme religieux, réclame comme homme religieux une communauté religieuse qui a sa liturgie. Alors, au nom de quoi? Pourquoi l'homme réclame ça? C'est parce que l'adoration implique d'être intérieur, d'abord, et que le corps manifeste à l'extérieur l'exigence de l'adoration. J'ai vu l'humilité qui se manifeste à l'extérieur aussi comme une vertu propre à l'attitude religieuse. Et je vois, puisque l'attitude religieuse surabonde sur le corps, puisque le corps fait partie de mon être, que si le corps était en dehors du point de vue religieux, je ne reconnaîtrais pas que mon corps dépend de Dieu. Pas de la même manière que mon âme, mais dépend de Dieu. Il faut donc qu'il y ait des communautés religieuses. Et le sommet de la communauté religieuse, c'est la liturgie. C'est le sommet de la communauté religieuse. La communauté religieuse vit selon sa liturgie. Et selon les exigences de sa liturgie. Et c'est pour ça que dans toute liturgie, il y a la manifestation sensible, visible, corporelle, qui est non pas première, mais qui est première dans l'ordre de la manifestation, de la communion religieuse. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette liturgie communautaire d'une communauté religieuse? Vous voyez, je ne parle pas d'une communauté religieuse chrétienne, c'est autre chose. Dans une communauté religieuse chrétienne, il y a autre chose qui domine. Ce n'est plus au nom de la vertu de religion qu'on s'assemble. C'est au nom de notre lien avec Jésus. C'est pas la même chose du tout. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut comprendre qu'une communauté chrétienne, religieuse, assume tout ce qui est vrai d'une communauté humaine, religieuse. L'assume en le transformant, en donnant un autre ordre de valeur. Ici, j'essaie de comprendre l'homme religieux.
Prier.
l'aspect communautaire religieux, mettre en commun tout ce qu'il y a en nous d'âme religieuse et de corps religieux, de sensibilité religieuse. Et on comprend, puisque notre corps participe à cette attitude religieuse et à l'adoration, on comprend comment il est nécessaire qu'il y ait cette manifestation communautaire au plan religieux. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est l'adoration, c'est la louange, c'est l'action de grâce. Tout cela proclamé, chanter, crier, tous, on reconnaît que le Dieu créateur et le Dieu providence, on doit le remercier, on doit le louer, et que tout ça prend sa signification à partir de l'adoration. Les hommes religieux qui reconnaissent le Créateur devraient s'unir contre l'athéisme, contre la laïcité. C'est le geste du pape à Assise. Il y a une famille religieuse parmi les hommes. Et cette famille religieuse a quelque chose de fondamentalement commun. Il y a une relativité dans les gestes. Il n'y a pas d'absolu. Vous avez tout à fait le droit de dire ça. Chacun d'entre nous, nous avons notre petite liturgie quand nous sommes seuls. Comment transformons-nous notre milieu, notre maison, en un lieu de prière ? Communautaire, la famille représente une petite communauté religieuse. Elle doit représenter une petite communauté religieuse. Autrement, elle n'est pas vraiment famille, puisque ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui se trouvent ensemble et qui doivent manifester qu'ils croient, loin, qu'ils sont liés au Dieu créateur. Et qu'il s'aime le Dieu créateur. Vous voyez, là, il y a tout un terrain merveilleux, du reste, la recherche liturgique. Hein, comment le corps est lié à tous les actes liturgiques. Alors, les actes liturgiques, l'adoration peut se faire en commun, c'est sûr. Elle est premièrement personnelle, solitaire. La louange est beaucoup plus commune. L'action de grâce est beaucoup plus commune. La demande est beaucoup plus commune. Et ça, c'est l'épanouissement de la vie liturgique. Mais une vie liturgique n'existe que s'il y a l'adoration, que s'il y a la présence du silence du Créateur au milieu de nous. S'il y a cette intensité de présence, autrement, ça risque d'être très extérieur. C'est le danger de toute prière liturgique. Dieu a horreur du sang des taureaux et des boucs. C'est dit dans la tradition religieuse. Dieu a horreur du sang des taureaux et des boucs. Il y a certaines prières communes où on se demande où on est. Est-ce que c'est encore liturgique ? Est-ce que c'est encore religieux ? À un moment donné, on disait tout le temps, les jeunes ont le droit de s'exprimer. Alors c'était le slogan. Mais c'est pas ça. S'exprimer religieusement, s'exprimer en adorant un lieu de prière liturgique où on ne peut plus adorer, n'est plus liturgique. Le critère, c'est ça. Est-ce que cette prière liturgique vous conduit à l'adoration ? Est-ce que cette prière liturgique vous conduit au silence de l'adoration ? Au silence de la contemplation. Si elle ne vous conduit pas à ce silence de l'adoration et de la contemplation, ce n'est plus une prière liturgique. Alors vous allez me dire, ça dépend des gens. C'est sûr, c'est sûr. Mais vous avez le droit de choisir votre communauté religieuse. Pour les Africains, il faut autre chose que pour les Européens. Pour les gens du Nord, faut autre chose que pour les gens du midi. C'est sûr. La prière liturgique prend une autre tonalité. Pour le Canada, pour les États-Unis, c'est pas la même chose. Et pour le Mexique, c'est encore autre chose. Vous voyez, il y a une espèce. Au fond, si l'adoration est ce qu'il y a de plus intime en nous, la prière liturgique va exprimer à travers notre sensibilité, à travers nos gestes, à travers nos chants, ce qu'il y a de plus individuel en nous. Et ce qu'il y a de plus individuel est gardé dans la culture. Parce que la culture est le mousse qui permet à la prière liturgique de se réaliser. Mais ce qui est sûr, c'est que toute prière liturgique et le silence de l'adoration. Une prière liturgique où il n'y aurait plus de silence, ce n'est plus une prière liturgique. Parce que la prière liturgique conduit au silence de l'adoration, au silence de la contemplation. La prière liturgique n'est pas un meeting politique. Un meeting politique, c'est autre chose. qui ne sont pas des. Mais il y a des pèlerinages de jeunes où il doit y avoir une prière liturgique. Et ceux qui dirigent doivent toujours se demander, est-ce liturgique? Est-ce que ça conduit à l'adoration? Est-ce que ça te conduit à la contemplation? Si c'est uniquement pour le plaisir d'être ensemble et de faire le plus bruit possible, c'est plus très liturgique. Vous savez, dans certains processions d'Andalousie, en Espagne, on raconte des faits très extraordinaires. On m'a toujours raconté de quelqu'un qui l'avait vu, hein, c'est pas dans la journalie. On sort toutes les vierges le jour de l'Ascension. Et se porter avec courage. Et alors, quand une passe avant l'autre, ça peut arriver, elle gratte l'autre. Alors ceux qui portent, celle qui est battue, ils sortent et puis ils disent, ah, je te vengerai. Ils m'ont eu, on les aura. Vous voyez, la rivalité, ce qui arrive dans tous les meetings politiques, la compétition, il n'y a pas de compétition religieuse, il n'y a pas de rivalité religieuse, il n'y a pas de jalousie religieuse. C'est pas comme un meeting sportif. On a le droit au voile du sportif de pouvoir aiguiser l'irascible le plus qu'on peut, avec une certaine prudence. Il ne s'agit pas de tuer le voisin, mais on peut quand même le secouer. Eh bien, dans le point de vue religieux, non. Et l'aspect communautaire excite toujours l'irascible. Parce que c'est l'aspect communautaire qui éveille les rivalités, qui éveille les jalousies. Alors, on doit être insensif. Alors là, vous voyez, je touche à un point très important. L'attitude religieuse face à la communauté. Entrée par l'humilité. Et l'humilité doit toujours rester avec l'adoration. Au point de départ et au terme. Et alors, il faudrait se demander si l'éthique religieuse modifie les vertus cardinales de tempérance, le jeûne, la cèse religieuse, la vertu de force. Y a-t-il un martyr au niveau proprement religieux? Je crois. Tu réclames le don total de l'âme et du corps et de toute notre vie. Et les premiers chrétiens, c'était au niveau religieux, on leur demandait d'adorer les idoles et d'adorer l'empereur, et refusaient. Parce que le geste d'adoration montrait totale dépendance. Et là, vous voyez comment le point de vue de l'esprit religieux vient transformer tout le comportement humain de l'homme vertueux, de tempérance, de force, de prudence, de justice. Il y a des vertus nouvelles qui apparaissent, la vertu d'humilité. Et il y a la consécration à Dieu, l'esprit de virginité, né de ce sens de la transcendance absolue de Dieu. Et c'est dans le prolongement de l'adoration. Et un dépassement.